niveau de la sensibilisation des populations et de la prise en charge des malades. Selon lui, de nombreux cas suspects ont été rapportés par les populations qui n'hésitent pas à se rendre dans les structures hospitalières dès les premiers signes de la maladie. Il salue également l'implication des partenaires nationaux et internationaux mobilisés pour lutter contre l'épidémie.
Il n'empêche, Georges, que les risques de choléra ne sont pas éliminés.
Oui, Babadou, les défis majeurs auxquels les populations continuent d'être confrontées concernent l'approvisionnement en eau potable. Selon l'OMS, l'accès à l'eau potable et l'assainissement sont essentiels pour réduire la transmission du choléra et des autres maladies à transmission hydrique. Rappelons qu'entre le 7 et le 22 juillet dernier, plus de 1880 cas de choléra avaient été enregistrés dans les zones de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo, causant la mort de 13 personnes, Mamadou.
Espérons en tout cas que la situation sera durablement maîtrisée dans la province congolaise du Nord Kivu, qui souffre déjà de l'insécurité. Merci Georges.
Merci à vous.
Santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
La 9e conférence internationale de recherche sur le sida s'est tenue à Paris, la capitale de France, du 23 au 26 juillet 2017. Quelques 6000 spécialistes se sont réunis pour discuter de la recherche et des solutions nouvelles dans la lutte contre le sida. Y a-t-il de nouveaux médicaments et candidats vaccins contre le sida? Nous avons posé la question au professeur Jean-François Delfrécy, coprésident de la conférence.
Il y a une trentaine de médicaments qui existent et qui sont très actifs contre le virus du sida. Ils permettent de bloquer la multiplication du virus et ils ont transformé, radicalement changé le pronostic de la maladie. La durée de vie des personnes traitées sous traitement, si elles prennent bien leur traitement, il est comparable à celui de la population générale. Donc les médicaments du VIH, on les a. Par contre, on n'a pas de médicaments qui permettent d'enlever le virus, d'éradiquer le virus. C'est-à-dire que le virus disparaisse du corps. Parce que ces médicaments que nous avons, dès qu'on les arrête, eh bien le virus repart. Ce sont uniquement des médicaments qui permettent de contrôler la multiplication du virus. Et donc ça, c'est tout l'objet de recherche, mais on en discutera, c'est comment aboutir à l'éradication.
Alors professeur, le virus est connu, la maladie existe depuis une trentaine d'années. Pourquoi est-ce si difficile de trouver les vaccins contre la maladie?
Alors pour le vaccin, c'est plus compliqué. Nous n'avons pas de vaccin contre le sida actuellement. On a des candidats vaccins qui sont en train d'être étudiés. Et pourquoi est-ce si compliqué? C'est compliqué parce que le virus du sida, il infecte préférentiellement les cellules du système immunitaire, c'est-à-dire les cellules qui normalement sont faites pour nous défendre contre les agents infectieux et pour répondre à un vaccin. Donc en gros, on a un virus qui détruit les cellules qui sont normalement les cellules qui répondent à un vaccin. Donc il y a une sorte de cercle vicieux qui s'installe. Et c'est la raison pour laquelle c'est particulièrement compliqué d'avoir un vaccin contre le sida. Mais je vous rappelle qu'on n'a pas de bon vaccin contre la tuberculose. On n'a pas de vaccin contre l'hépatite C, on n'a pas de vaccin contre Zika, par exemple. Il y a d'autres grandes maladies infectieuses ou contre le paludisme sur lesquelles nous n'avons pas de vaccin actuellement.
Alors, vous avez évoqué les candidats vaccins. Est-ce qu'on peut faire l'état? Quels sont les candidats vaccins à l'heure actuelle qui sont assez avancés dans la recherche?
Eh bien, on a plusieurs candidats vaccins. On a eu un seul essai thérapeutique qui a montré un effet protecteur d'un outil vaccinal. Ça remonte déjà il y a assez loin. L'effet protecteur était limité puisqu'il protégeait uniquement avec un taux de succès de 36% à peu près. Ce qui n'est pas suffisant pour un vaccin puisque ce qu'on attend d'un vaccin, c'est qu'il protège à plus de 90%. Mais ça nous a permis d'étudier les personnes qui étaient protégées et celles qui ne l'étaient pas. Quelle était la réponse immunitaire qu'elles avaient? Quelles étaient les différences? Donc on sait mieux maintenant ce que doit induire un vaccin pour obtenir une bonne réponse immunitaire et une bonne réponse immunitaire qui protège. Donc c'est vraiment les éléments nouveaux à la fois de cette conférence. Alors on a plusieurs candidats vaccins, dont ils sont un peu, c'est techniquement difficile à les expliquer pour le grand public, mais disons qu'il y en a ceux qui sont portés par un adénovirus et d'autres qui sont au contraire des produits purement génétiques. Et ils sont en train d'être testés, en particulier contre les souches les plus fréquentes, les souches africaines, et contre le sous-type C du virus VIH.
Alors, parlons justement des tests. Où est-ce que les tests se déroulent actuellement? Comment ça se passe au niveau du recrutement des volontaires? Comment ça se passe concrètement sur
le... Les recrutements se font dans de très nombreux pays africains, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud et en Afrique australe en général. Et puis également, on a plusieurs centres de vaccination dans l'Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc il y a plusieurs centres de recherche qui s'occupent d'évaluer des stratégies vaccinales. C'est en train de débuter parce que jusqu'à maintenant, la majorité des grands essais vaccinaux avaient été réalisés plutôt au Nord. Mais là, ils sont en train d'être débutés au Sud et ce sont des centres spécialisés pour bien étudier, suivre, non pas des patients, hein, mais des personnes qui vont bien, qui sont volontaires, pour voir si elles sont protégées contre le virus du VIH.
Vous avez parlé tout à l'heure des médicaments, de la recherche des médicaments qui permettraient d'éradiquer totalement le virus. Est-ce que sur ce point-là, est-ce qu'on a avancé dans la recherche?
Oui, c'était un des thèmes de la conférence de Paris. La recherche sur le VIH a tendance à se rapprocher de la recherche sur le cancer. Parce que, somme toute, il n'y a peut-être pas de grosses différences entre les cellules résiduelles cancéreuses sous traitement et les cellules qui constituent le réservoir virologique du VIH. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a un rapprochement, et avec peut-être des médicaments dont l'objectif sera de stimuler la réponse immunitaire pour essayer de contrôler. Parce qu'on peut imaginer qu'on n'éradique pas forcément, c'est-à-dire qu'on n'élimine pas totalement le virus, mais qu'on rende l'organisme capable de le contrôler en boostant l'organisme et en boostant les réponses immunitaires de l'organisme.
Alors, l'un des points cruciaux dans la recherche, c'est le financement. Est-ce que, selon vous, les chercheurs ou les centres de recherche ont assez de moyens pour mener leurs activités de recherche?
On a besoin toujours de plus de financement. Bon, la France est un pays assez privilégié pour les financements, puisqu'on a une agence de recherche dédiée au VIH et aux hépatites, qui fait à la fois tous les aspects de la recherche, et dont une partie, plus de 20% du budget, est consacrée au partenariat avec les pays du Sud. Les Américains également ont de très gros financements au niveau recherche. Une des craintes qu'il y a, c'est que ces financements diminuent au cours des prochaines années, en particulier aux États-Unis, avec la politique du nouveau président Trump. Mais enfin, rien n'est acquis, et pour l'instant, en tout cas, il y a des financements qui se poursuivent. Après, on a besoin de financements non seulement pour la recherche, mais aussi pour que les patients des pays du Sud puissent bénéficier des traitements antirétroviraux. Et cela, c'est financé par de grandes opérations internationales, en particulier le Fonds mondial, et qui est financé lui-même, en partie par les ministres de la Santé des différents pays touchés, mais aussi par des coalitions, entre guillemets, du Nord. Et la France est le deuxième grand donateur mondial sur ce sujet. Donc on a beaucoup d'éléments qui font qu'on peut gagner la lutte contre le sida, qu'on peut casser la courbe de l'épidémie, mais c'est sûrement pas le moment de réduire les fonds.
Parlons maintenant des chercheurs, de la recherche, surtout en Afrique. Alors, est-ce qu'il y a une plateforme de collaboration entre les centres en Afrique et les chercheurs africains et les chercheurs occidentaux? Comment est-ce qu'un chercheur africain qui a peut-être des résultats satisfaisants peut faire connaître ses travaux à l'échelle internationale?
Eh bien, il y a en effet de très nombreuses collaborations qui existent entre les différents pays du Nord, les États-Unis, l'Angleterre, la France, bien sûr. C'est les trois principaux pays. Et puis, on a une série de collaborations dans différents pays, soit de langue anglaise pour les Anglais et les Américains, soit plutôt la francophonie du côté français. Donc on a des plateformes de recherche, comme vous l'indiquiez, dans les pays. Nous en avons à l'ANRS au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et on en a également ailleurs, en Asie du Sud-Est, où là, il y a des chercheurs du Nord et des chercheurs du Sud à égalité complètement, qui portent des projets, qui déposent des projets et qui, s'ils sont financés les mêmes, et peuvent être générateurs de nouvelles idées. Donc il y a un partenariat Nord-Sud-Sud-Nord qui est très important dans le domaine du VIH. Et un chercheur qui souhaite pousser une idée, il faut qu'il se rapproche des équipes qui sont très connues, en particulier dans les capitales de l'ensemble de ces pays de l'Afrique francophone du Grand Ouest.
La conférence internationale sur le sida que vous co-présidez est en train de s'achever à Paris. Qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de cette conférence-là?
D'une part, des résultats scientifiques. On a eu beaucoup de choses sur les nouveaux antirétroviraux, sur la relation entre justement les nouveaux traitements en oncologie et puis le VIH. On a vu la place majeure que sont les associations de patients, car tout ça ne peut bouger que si les associations de patients sont des opérateurs, portent les traitements et poursuivent ces traitements. Donc tout ça est essentiel. On a également eu des discussions avec des ministres politiques qui sont venus et auxquels on a rappelé en effet les besoins à la fois de financement mais aussi de leadership politique pour continuer à porter la lutte contre le sida.
Nous remercions le professeur Jean-François Delfrécy qui nous répondait depuis Paris en France.
Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage.
Selon les experts, un vaccin reste le meilleur moyen de mettre fin à l'épidémie qui a contaminé 76 millions de personnes et provoqué 35 millions de décès depuis son apparition au début des années 1980. Plusieurs chercheurs et instituts de recherche sont engagés dans la recherche d'un vaccin. C'est le cas de Vaccine Research Institute de Paris. Cet institut étudie actuellement deux types de vaccins. C'est ce que nous a expliqué le professeur Jean-Daniel Lelièvre, immunologiste. Il est le responsable de la recherche clinique dans cet institut.
Au sein de cet institut, on développe des stratégies vaccinales un petit peu particulières qui visent à cibler directement les cellules dendritiques et on va utiliser différents types de vaccins en fonction de la cible envisagée, c'est-à-dire qu'on va avoir des vaccins thérapeutiques pour les personnes qui sont déjà infectées par le VIH et des vaccins prophylactiques qui sont dirigés pour les patients qui sont séronégatifs. Nous avons fait dans le passé des essais vaccinaux avec d'autres types de candidats vaccins. Mais avec ces nouveaux vaccins, pour l'instant, nous avons uniquement des résultats obtenus dans les modèles chez l'animal.
Alors, vous avez dit des vaccins thérapeutiques, des vaccins préventifs. Donc, ça veut dire que vous travaillez actuellement sur deux vaccins ou alors c'est plusieurs modèles de vaccins ?
Il y a plusieurs modèles de vaccins, mais nous, on travaille sur deux modèles de vaccins. En fait, ces vaccins permettent de cibler directement les cellules dendritiques et on va mettre différentes protéines du VIH associées à ces vaccins, suivant que l'on veut avoir un vaccin qui va prévenir l'infection ou un vaccin qui va permettre de contrôler la réplication virale chez les patients qui sont infectés. Donc le vecteur, si vous voulez, l'outil qu'on va utiliser, qui est un anticorps qui va se fixer sur les cellules dendritiques elles-mêmes, on va simplement changer ensuite le type de protéine que l'on va associer à ce type de vecteur.
Parlez-nous des essais cliniques. Vous avez dit que pour le moment, vous allez tester ces vaccins sur les animaux. Est-ce que vous l'avez déjà fait ou est-ce que vous projetez de le faire?
Voilà, donc ces vaccins ont été testés chez les animaux et montrent une très bonne efficacité en termes d'induction d'une réponse immunologique, à la fois pour les vaccins thérapeutiques. Et donc, ils ont été testés dans des modèles à la fois chez les singes, ce qu'on appelle les primates non humains, donc les modèles de petits singes, et également dans des modèles un peu plus proches du modèle humain que nous on appelle les souris humanisées, où on reproduit un système immunitaire artificiellement humain chez les souris.
Quelles sont les prochaines étapes après ce test effectué sur les singes ?
Après ces tests, évidemment, c'est de passer maintenant à des essais chez l'homme. Alors pour ça, ça nécessite que ces vaccins soient produits selon des normes qui permettent de les utiliser chez l'homme. Donc on a fait appel à des compagnies de l'industrie pharmaceutique qui sont expertes dans la production de ces vaccins. Et donc dans l'année prochaine et l'année suivante, on va pouvoir avoir ce type de vaccin disponible pour des premières études chez l'homme où on va tester ce qu'on appelle l'immunogénicité, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'induire le même type de réponse immunitaire que ce qu'on a obtenu chez les singes.
Y a-t-il des difficultés dans la recherche ? Vous avez dit que par le passé, vous avez essayé plusieurs types de vaccins et ça n'a pas fonctionné. Alors, ça veut dire qu'il y a des difficultés. Quelles sont ces difficultés ?
Les difficultés dans la recherche sont différents types. Évidemment, sont d'abord le fait que vous êtes confronté à des premiers vaccins qui ne fonctionnent pas, sont évidemment de trouver des personnes qui souhaitent participer à ce type d'essais, qui sont des essais très préliminaires, donc avec toujours une angoisse de la part des personnes de recevoir des vaccins qui ne sont que des candidats vaccins. Donc il y a toujours des difficultés pour trouver des volontaires, à la fois des volontaires sains et des personnes séropositives pour participer à ces essais. Et puis après, évidemment, il y a des problèmes financiers. Tous ces essais coûtent cher et il faut aller chercher des financements au niveau national, au niveau européen pour mettre en place ce type d'essais.
Alors, vous qui êtes dans le domaine de la recherche, certainement vous êtes informé sur ce que vos collègues ou d'autres instituts de recherche font. Est-ce que vous avez espoir qu'à court ou à moyen terme, on peut avoir un vaccin contre le sida ?
Alors, à court terme, probablement pas. Hein. Il faut être tout à fait réaliste et on n'aura pas, dans les 5 ans à venir, de vaccin contre l'infection par le VIH. Par contre, la recherche est très active et on a des pistes très intéressantes pour des vaccins qui pourraient être efficace. En termes de vaccins prophylactiques, il y a 8 ans maintenant, un premier vaccin qui a montré qu'il était efficace, mais de manière partielle, avec une protection qui était environ de 60% à un an, mais qui disparaissait au cours du temps, qui n'était plus que de 30% après 3 ans et demi, mais qui est suffisamment intéressant pour avoir été développé à plus large échelle. Il y a un nouvel essai utilisant ce même type de candidat vaccin qui a débuté en fin d'année dernière en Afrique du Sud et dont les résultats pour être disponible d'ici 5 à 7 ans et qui offre de véritables perspectives d'efficacité. Et ça, c'est une piste parmi d'autres. Il y a d'autres pistes plus compliquées mais qui peuvent donner aussi des résultats intéressants. Et tout ça nous laisse espérer qu'on pourrait obtenir un jour, peut-être pas dans 50 ans, mais beaucoup plus rapidement que ça, un premier candidat de vaccin suffisamment intéressant en termes de protection pour être proposé à large échelle au niveau mondial.
En Belgique aussi, la recherche se poursuit. L'Institut de médecine tropicale d'Anvers a testé un médicament vaccin contre le VIH. Pour en savoir davantage, nous avons joint Roland Scholtalbers, responsable de la communication de cet institut.
En fait, le médicament en question, il s'appelle Truvada. C'est un médicament antirétroviral qui agit contre le virus VIH. Mais on ne le prend pas après avoir attrapé le virus, mais on le prend déjà avant d'attraper le virus.
Alors, l'étude a commencé quand et puis comment ça s'est déroulé jusqu'à présent?
En fait, l'Institut de médecine tropicale d'Anvers amène une étude avec 200 participants en Belgique. Ça, c'est des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. En fait, c'est ça le groupe qui est le plus à risque d'attraper le virus VIH en Belgique. Il y a eu déjà des études, par exemple, en France et en Grande-Bretagne, qui ont démontré que le PrEP, le prophylaxie pré-exposition, est très efficace à prévenir l'infection avec le VIH. Mais en fait, ce qu'on fait maintenant en Belgique, c'est de suivre des participants pendant 18 mois et de voir comment ça marche dans la vie de tous les jours.
Donc, sur les 200 participants, vous avez déjà eu à tester combien de participants et quels ont été les résultats?
L'étude, il est en cours, mais entre les 200 participants qui ont maintenant tous commencé, les derniers participants ont commencé en décembre 2016 et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'infection avec les VIH, ça fait bien. Mais c'est important aussi de souligner, en fait, que le préservatif reste le plus important dans la prévention contre le VIH. En fait, le PrEP ne protège pas contre des autres maladies sexuellement transmissibles comme le gonorrhée, comme le chlamydia ou le syphilis. Il s'agit seulement contre le VIH. Et en fait, ça s'applique seulement dans une période de la vie où les personnes qui prennent le médicament ne peuvent pas garantir de prendre, par exemple, le préservatif.
Donc, vous avez testé le médicament sur 200 participants et jusqu'ici, aucun n'a été infecté alors qu'ils ont été exposés au virus. Quelles sont donc les prochaines étapes? Est-ce qu'on peut espérer qu'à moyen ou à long terme, ce médicament-là peut être considéré comme déjà exploitable par les personnes qui souhaitent se protéger contre la maladie?
Oui, en fait, pour vraiment faire des conclusions, il faut attendre de 2018, quand les derniers participants vont terminer leurs 18 mois de suivi. Mais en fait, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'infection dans ce groupe à haut risque du VIH. Alors ça, c'est déjà une bonne nouvelle, mais il faut voir comment ça va s'évoluer dans le temps. Et en fait, en Belgique, le ministre de la Santé a décidé le 1er juin de rembourser aussi ces médicaments, que jusqu'à maintenant, il est aussi cher. Là, ça va changer dans les années à venir aussi. Le prix est en train de devenir plus bas. Mais en fait, il y a aussi un côté économique aussi à la question, parce qu'en fait, ça s'agit de médicaments qu'il faut prendre régulièrement pour prévenir la maladie. Et il faut voir dans chaque pays spécifique de comment ça marche, de comment on peut l'appliquer. L'épidémie du VIH est un problème très grand en Afrique, on le sait. Il faut commencer à penser comment il peut contribuer à lutter contre l'épidémie. On a des autres outils de prévention et bien sûr, le préservatif reste le plus important pour la plupart du monde. Mais aussi en Afrique, on doit aller voir qui sont dans une situation de risque pendant une période de leur vie, il faut voir quel rôle le PrEP peut jouer contre le virus VIH.
Nous remercions Roland Scholt-Calbers depuis Anvers en Belgique. Ajoutons aussi qu'ici aux États-Unis, une équipe de chercheurs coordonnée par le professeur Dan Barouche de la Harvard Medical School a testé un candidat vaccin sur des singes. Un test qui a démontré en moyenne une efficacité de 66%. Une phase clinique plus large est prévue dans les mois à venir pour déterminer l'efficacité du candidat vaccin.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Cette semaine, l'un de nos correspondants en RDC, Erika Smouizi, a recueilli les questions auprès de nos auditeurs de Bukavu. Nous avons sélectionné l'une de ces questions et notre consultant, le docteur Amangenkap, y a répondu. Le docteur Amangenkap est médecin urgentiste et praticien au Centre Hospital Universitaire de Soissons en France.
Je suis Kachova Taolia Espérance, docteur, suis en ville de Beni au Nord Kivu. Je voudrais savoir si une personne vivant avec le VIH-Sida peut avoir le même quotient intellectuel qu'un enfant né sans cette maladie contagieuse.
Ce que je peux répondre à Espérance, c'est que bien évidemment, une personne qui vit avec le VIH-Sida peut avoir le même quotient intellectuel, sinon avoir même un quotient intellectuel plus élevé qu'une autre personne qui ne souffre pas de cette maladie-là. Mais il est évident qu'il faudrait que cette personne infectée par le VIH-Sida n'ait pas développé des complications infectieuses cérébrales comme des toxoplasmoses cérébrales ou des tuberculoses cérébrales, parce que ça, c'est malheureusement les complications du VIH qui peuvent endommager le potentiel intellectuel. Et bien évidemment, il faudrait que cette personne qui vient le VIH-Sida puisse bénéficier assez précocement d'un traitement antirétroviral qui va permettre de rendre sa charge virale indétectable et qui lui permettra de vivre comme une personne qui n'a quasiment pas été infectée par le VIH-Sida. Bien évidemment, cette personne également, pour qu'elle puisse garder tout son potentiel intellectuel, devra avoir un excellent soutien socio-psychologique de son entourage, parce que un désordre psychologique, un trouble de l'humeur chez cette personne-là peut être source d'une dépression mentale. Et une dépression mentale, malheureusement, peut agir négativement sur le quotient intellectuel de la personne et rabaisser ce quotient intellectuel-là à une valeur nettement inférieure à celle qu'elle se devait être. Voilà ce que je pouvais répondre à Espérance par rapport à sa question.
N'oubliez pas, si vous aussi vous avez des questions, des observations et des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Désormais aussi, vous pourrez regarder la version télé de ce programme qui sera diffusé sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, www.voaafrique.com et sur le réseau de nos télévisions partenaires.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la recherche des médicaments et surtout des vaccins contre le VIH-Sida. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le professeur Jean-François Delprezy, co-président de la Conférence internationale de Paris sur le Sida. Avec lui, nous avons évoqué quelques résultats des recherches présentés pendant cette conférence. Nous avons aussi écouté le professeur Jean-Daniel Lelièvre, immunologiste et responsable de la recherche clinique au Vaccine Research Institute de Paris en France. Il nous a présenté les candidats vaccins en cours de développement par cet institut. Et Roland Scholt-Albers de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers en Belgique nous a parlé du Truvada, un médicament antirétroviral qui pourrait aider à prévenir la propagation du VIH. Comme d'habitude, notre consultant, le docteur Amangenkap, a répondu aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci.
Merci également à Georges Léonard Sagnot qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos correspondants de la RDC, Gabriel Mina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Aiden Utko qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Monezero et j'étais en compagnie de
Mamadou Oumfa.
Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car
votre santé, c'est votre avenir.
À la prochaine.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook, voafrique.